Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Gaspard Ganzer, candidat à la mairie de Paris. Vous venez de publier « Nous autres Parisiens » aux éditions Fayard. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous avez 40 ans, c'est la première fois que vous vous présentez à une élection, comme un certain Emmanuel Macron en 2017. Vous avez travaillé notamment à l'Hôtel de Ville de Paris, au Quai d'Orsay, à l'Élysée. Vous connaissez à la fois Paris et les arcanes de l'État. Est-ce que c'est un avantage pour diriger Paris? Selon vous, quelles qualités faut-il pour être un bon maire et un bon maire de Paris?
Merci beaucoup de m'inviter. Déjà, je pense que la première qualité du maire de Paris, c'est son humanité, sa proximité avec le peuple de Paris, les Parisiennes et les Parisiens. J'ai eu la chance de travailler plusieurs années à l'Hôtel de Ville, donc plusieurs années avec Bertrand Delanoë. Et ce que j'ai apprécié à ses côtés, c'est cette science du détail, de l'attention à chaque élément qui font la vie quotidienne des Parisiennes et des Parisiens. Les transports, le logement, la propreté, la sécurité. Je pense que ça, c'est la première des qualités du maire de Paris. La deuxième, c'est certainement quand même d'avoir de la hauteur de vue, peut-être un sens de l'histoire et aussi un sens de l'intérêt général. Et là, de ce point de vue, le fait que j'ai eu la chance de travailler à l'Élysée, au Quai d'Orsay, auprès de Bertrand Delanoë, m'a donné à voir ce que c'était la complexité de la prise de décision au plus haut au niveau, au sommet de l'État, au sommet de l'Hôtel de Ville. Et parce que quand on est maire de Paris, il faut à la fois bien connaître sa ville. Moi, j'ai la chance d'avoir toujours vécu à Paris depuis 40 ans maintenant. Mais aussi, puisque ça ne suffit pas de l'aimer, d'avoir quand même une capacité à gérer des problèmes extrêmement complexes en matière de sécurité, de propreté, de logement et d'urbanisme. Donc, il faut à la fois être très humain, très proche des habitants et en même temps savoir prendre des décisions.
Alors, vous aspirez à être maire de Paris, mais vous êtes entouré d'une équipe. Vous n'êtes pas un homme seul. Alors, vous nous avez présenté cet été votre colistière Isabelle Saporta, qui est journaliste spécialiste des questions écologiques. Mais il y aura des têtes de liste dans chaque arrondissement. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ont été sélectionnées les personnes qui vous accompagnent?
La politique, c'est un sport collectif, particulièrement quand on prépare des élections municipales. Personne ne peut gagner seul. C'est pour ça que depuis que j'ai créé Parisienne Parisien, ce mouvement citoyen nouveau qui a vocation à préparer les élections municipales de 2020, après avoir rendu la parole aux habitants, j'ai cherché à constituer un collectif soudé. Aujourd'hui, on est plus de 2500 dans ce mouvement citoyen. Il y a des enseignants, des entrepreneurs, des avocats, des retraités, des étudiants, des gens qui font la ville au quotidien. Et parmi eux, on doit désigner au cours des prochains jours des candidats, à la fois des têtes de liste dans les 17 arrondissements, puis après près de 500 candidats dans les arrondissements de Paris. Et au moment où on se parle, se préparent les auditions qui auront lieu demain pour sélectionner un premier tiers de nos têtes de liste dans les arrondissements. Il y a une commission qui a été mise en place pour faire passer des auditions, qui est présidée par un professeur de droit qui s'appelle Thomas Clay, qui est assorti de deux femmes extrêmement brillantes, Marie Schweitzer, qui travaille dans le secteur de la production audiovisuelle, et Clairanne Coria, qui travaille dans le secteur des assurances. Et tous les trois, Clairanne Coria, Marie Schweitzer et Thomas Clay, vont devoir sélectionner, présélectionner des têtes de liste. Alors, je peux pas préjuger de leur décision, mais je vois bien les profils qui vont se destiner, les gens qui ont fait acte de candidature. Quelques exemples. Il y a Benjamin Djihan, qui est actuellement adjoint au maire du 3e arrondissement, spécialiste des questions de sécurité et d'espace public. Il y a Olivier Andrès, qui travaille dans une fondation. Il y a Valérie Lecable, qui travaille dans le secteur de la publicité. Cédric Allemand, qui est professeur de géographie. Valérie Wong, qui est cheminot. Et bien d'autres. Voilà. Pour avoir une bonne équipe, il faut non seulement avoir des bons joueurs, mais il faut avoir un bon esprit collectif, et c'est ce que j'essaie d'insuffler au sein de cette équipe.
Alors, vous avez rencontré les décideurs, puisque si vous êtes maire de Paris, vous n'aurez pas la main sur tous les sujets. Vous devrez notamment discuter avec Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, et elle a la main sur les transports. Vous avez évoqué ces questions avec elle. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour rendre la circulation des bus plus fluide dans Paris? Des bus qui sont ralentis par les embouteillages. Les lignes de métro sont saturées. ici à Radio Orient, on connaît bien la ligne 13. Comment rendre le métro aussi plus attractif? Si on veut que les Franciliens utilisent moins leur voiture, il faut une offre de transport en commun qui soit parfaite.
Vous avez raison d'attirer l'attention sur la question des transports publics, parce que c'est le principal mode de déplacement des Parisiennes et des Parisiens, mais aussi des grandes Parisiennes et des grands Parisiens.
Vous savez, les Franciliens, vous les appelez des
grands Parisiens? Oui, les grands Parisiens, parce que je peux bien parler du Grand Paris, je pense que c'est ça notre nouvelle frontière collective. Je crois que c'est la première des priorités en matière de déplacement. Vous savez, aujourd'hui, quand on cherche un appartement à acheter ou à louer, la première question que l'on pose, c'est où est la station de métro la plus proche? Le métro, le bus, c'est le quotidien des Parisiennes et des Parisiens. Or, force est de constater qu'il n'est pas à la hauteur. À la fois, les rames sont bondées, les couloirs de métro sont parfois sales et en mauvais état. Et puis, le service n'est pas satisfaisant sur l'ampleur de la journée, puisqu'en fait, le métro ne fonctionne pas la nuit. Donc, c'est des sujets que j'ai évoqués avec Valérie Pécresse, que je suis allé voir il y a quelques semaines, la présidente de la région Île-de-France. Je crois qu'il y a trois sujets principaux. Le premier, c'est la dépollution des rames de métro. Vous savez peut-être que le métro est l'endroit le plus pollué de Paris. La deuxième, c'est... Donc, il faut des investissements. Le deuxième, c'est l'accessibilité des rames de métro et des bus. Parce qu'il n'y a que très peu de stations accessibles.
J'allais vous en parler, justement.
Pour les personnes handicapées, les personnes âgées. Ma mère, par exemple, qui approche des 70 ans, ne peut plus prendre le métro parce qu'elle a de l'arthrose au genou. Et donc, elle ne peut prendre que le bus qui marche moins bien. Et la troisième chose, c'est la fluidité. La fluidité pour qu'il y ait plus de rames aux heures de pointe. Peut-être aussi en poussant les employeurs aussi à étendre un peu les horaires de leurs salariés pour que tout le monde ne se bouscule pas à 8h du mat dans le métro, mais aussi la nuit. Ce week-end, la région Île-de-France a expérimenté une nuit de métro sur quelques lignes. C'est une très bonne nouvelle qu'elle le fasse enfin. J'ai proposé dans le livre que j'ai écrit il y a quelques jours, publié il y a quelques jours, Nos autres Parisiens, d'étendre progressivement la circulation du métro toutes les nuits, comme c'est le cas à New York ou à Londres. Je pense que c'est indispensable à la fois pour que la ville vive mieux la nuit, renforcer la sécurité aussi.
C'est techniquement possible, parce qu'il faut en même temps nettoyer les métros, il y a des révisions du matériel.
Bien sûr qu'il y a un sujet de maintenance, donc c'est pour ça qu'il faut y aller progressivement. Il y aura de toute façon toujours des interruptions du trafic dans la semaine, des moments de maintenance, parce qu'on sait que on imagine que le dimanche soir, lundi soir, le mardi soir, il y a moins de trafic la nuit dans le métro. Donc on pourra répartir par roulement les moments où on sera dans les horaires de maintenance. Par contre, il est faux de dire que techniquement, c'est impossible. C'est une question de moyens et de volonté politique.
Alors j'ai vu que vous êtes venu à Radio Orient en scooter électrique, si j'ai bien compris. Faut-il revoir la façon dont on roule dans Paris, Gaspard Ganzer? Quand on voit des trottinettes et des vélos circuler parmi les voitures, parmi les bus, est-ce que c'est bien raisonnable? Ça peut être dangereux tout de même.
Aujourd'hui, on a un problème de coexistence des différents modes de transport dans l'espace public. Le premier mode de transport des Parisiens, c'est la marche. 30% des déplacements sont effectués à pied. Donc il faut d'abord s'occuper des piétons, ce qui nécessite de désaturer les trottoirs. Il ne doit pas y avoir de scooters, vélos mal garés, trottinettes mal garées. Ça, c'est la première priorité.
Il faut aussi... Vous serez intransigeant, il y aura des verbalisations. On n'a pas l'impression que les incivilités sont réprimées dans Paris, d'ailleurs.
Elles le sont, mais certainement pas suffisamment. Je pense qu'il faut être beaucoup plus dur avec ceux qui ne respectent pas l'espace public. L'espace public, c'est notre propriété à tous, nous, les Parisiennes et les Parisiens. Et donc, il faut vraiment reprendre le contrôle de nos trottoirs. Ça semble un peu simple comme formulation, mais je crois que le prochain maire de Paris doit être le maire de la reconquête des trottoirs de Paris. C'est la première des priorités. La deuxième, c'est qu'il faut faire coexister des modes de transport différents sur l'espace public, sur la chaussée. Le vélo, qui a un mode de transport extrêmement propre, la voiture, mais à condition qu'elle soit assez électrique, le scooter, à condition qu'il soit électrique, et puis bien évidemment les transports publics. Là, on est dans une phase de pagaille entre les travaux et ces changements de modes de transport. Et donc, il faut travailler une plus grande harmonie. Il ne doit pas y avoir de vainqueurs et de vaincus. Je pense qu'il faut qu'il y ait à la fois quelques véhicules électriques, motorisés, beaucoup de vélos, et surtout beaucoup de marcheurs et de bus. Pas les uns contre les autres, ensemble et de façon harmonieuse.
En creux, c'est une critique du bilan d'Anne Hidalgo sur les transports. Elle a été parfois accusée de privilégier le vélo par rapport à la voiture. Vous n'êtes pas anti-voiture.
Je ne suis pas anti-voiture, je ne suis pas anti-vélo non plus. Moi-même, je fais du vélo extrêmement fréquemment. Là, aujourd'hui, je suis venu en scooter électrique parce que j'avais la totalité de Paris à traverser. J'avais beaucoup de déplacements sur le terrain, donc j'ai privilégié la rapidité. Mais j'aime beaucoup le vélo à Paris. Je suis pour qu'on développe le vélo à Paris, qui a un très beau mode de transport. Après, il est faux de dire que c'est un mode de transport ouvert à tous. Ma mère, qui a près de 70 ans, ma tante, qui a plus de 70 ans, qui sont parisiennes, ma grand-mère, qui malheureusement est morte il y a quelques années, à 96 ans. À 96 ans, on ne peut plus faire de vélo. Donc il faut aussi des bus. Or, les bus aujourd'hui circulent beaucoup moins bien dans la ville. Donc il faut des modes de transport pour tout le monde. Des modes de transport individuels, comme le vélo ou le scooter, de façon raisonnable pour le scooter, mais des modes de transport collectifs. Moi, je crois beaucoup au bus et au métro. C'est le bus et le métro qu'il faut d'abord développer.
Avec l'accessibilité dont vous avez parlé, techniquement, c'est un chantier énorme, un très gros investissement.
Techniquement et financièrement, hein. Il ne faut pas se voiler la face. Mais c'est une très bonne dépense et il est finalement assez honteux qu'on ne se soit pas occupé de cette question avant.
Alors Gaspard Ganzer, si vous êtes élu, vous aurez en charge les cantines, le périscolaire, à l'école primaire et maternelle, mais aussi les conservatoires qui, faute de place, ne peuvent accueillir actuellement tous les petits Parisiens. Qu'est-ce qui peut être amélioré pour les élèves et d'une manière plus générale pour les enfants à Paris ?
Alors, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de rêves qu'on peut faire en commun pour les enfants parisiens. Tout d'abord, leur donner une alimentation de qualité à tous. Isabelle Saporta, qui m'a rejoint au sein de Parisienne Parisien, a notamment proposé de passer au 100% bio dans les cantines et au circuit court, la bonne nourriture pour tous les enfants. Ça, c'est formidable. Première.
Alors, c'est facile à dire, c'est quand même très compliqué à mettre en œuvre parce qu'il faut savoir où vous allez vous approvisionner. Si c'est pour avoir du bio qui vient d'Amérique du Sud, par exemple.
Ah bah, ça, c'est hors de question. C'est pour ça que nous marions avec Isabelle Saporta, circuit court et bio. Mais vous savez, la région Île-de-France est la première région agricole d'Europe. Première région agricole d'Europe.
On ne le sait pas.
Eh bien, je vous le dis, la première région agricole d'Europe, c'est l'Île-de-France. Alors, c'est beaucoup de céréales, bien évidemment, parce qu'on a fait des choix, on va dire, compétitifs en direction des céréaliers en Île-de-France. Mais on peut faire de l'agriculture et produire beaucoup dans ce qu'on appelle le bassin parisien, qui est une des régions les plus fertiles d'Europe, compte tenu de sa pluviométrie et de son climat. Donc on peut tout faire pousser en Île-de-France. Il ne faut pas...
Vous serez en même temps une sorte de ministre de l'agriculture de Paris, là, parce que là, ces exploitations agricoles, elles ne sont pas opérationnelles pour l'instant pour faire du bio.
Non, mais il faut penser à long terme. Moi, je ne serai pas le maire de la gestion de la petite semaine. Il faut transformer la ville et tout ce qui va avec. Donc l'alimentation, c'est une première chose pour les enfants. La deuxième, c'est le sport. Moi, j'ai toujours fait du sport, ça m'a beaucoup ouvert. J'avais pas de frères, j'avais des sœurs uniquement, et ça m'a permis de me faire un très grand nombre de copains, de me développer physiquement, mais aussi mentalement. Tout ce que j'ai appris dans ma vie, quasiment, en matière de valeur, je l'ai appris dans un vestiaire ou sur un terrain de rugby. Et donc, je souhaite à chacun de pouvoir faire du sport. Alors, des sports collectifs, des sports individuels. Mais c'est un privilège aujourd'hui de faire du sport à Paris, et il faut que ça passe par l'école. Il y a la chance d'avoir des cours de PS en primaire, mais il faut aussi qu'au collège ou au lycée, on puisse l'en faire. Donc vraiment, il faut qu'il y ait un droit au sport pour tous les Parisiens, ce qui nécessite d'avoir plus d'équipements sportifs, mais aussi de faire baisser le coût. Moi, j'ai 4 enfants, je peux vous dire que c'est un vrai budget de faire du sport à ces enfants. Moi, ils font du foot, de l'escalade, du tennis, ils ont de la chance, du taekwondo, mais tout le monde n'a pas cette chance. Et puis, il y a le droit à la culture et à l'éducation artistique. Aujourd'hui, il n'est pas normal qu'il y ait un service public financé par l'impôt, les conservatoires, qui ne soit pas accessible à tous. Pour accéder au conservatoire, il faut être tiré au sort. C'est quand même un vrai problème. Alors moi, mes enfants ont eu de la chance, ils ont été tirés au sort. Donc cette année, il y en a une qui commence la trompette, et il y en a un qui commence le corps d'harmonie. C'est une chance exceptionnelle, parce qu'ils font de l'instrument, ils font aussi de l'éducation nationale, ils chantent à la chorale, pour finalement des sommes pas très importantes. Je me dis, mais quel privilège ! Et ce privilège devrait être étendu à tous les Parisiennes et les Parisiens. Le conservatoire, c'est quelque chose de formidable, c'est un outil exceptionnel, avec les centres d'animation aussi, qui devraient être ouverts à tous.
Vous avez un réseau de bibliothèques à Paris qui est formidable. Est-ce qu'il faut étendre les ouvertures, par exemple, au dimanche ? Certaines le sont déjà.
Bah, oui, il faut le faire, mais malheureusement, il y a moins de 5 bibliothèques qui sont ouvertes le dimanche. Donc, sur la cinquantaine de bibliothèques, c'est pas du tout suffisant. Il en faut beaucoup plus. C'est un des échecs, hein, malheureusement, de la politique qui a été conduite au cours des dernières années. C'est qu'on n'a pas réussi à trouver des accords avec les syndicats pour ouvrir davantage ces bibliothèques. C'est un souci parce que, évidemment, on peut y aller avec, dans le cadre de son activité scolaire. On peut y aller sur les horaires de journée, mais on peut pas y aller le soir, on peut pas y aller le week-end. Donc, c'est quand même un problème.
Moi, j'adore. Notamment pour les étudiants.
Notamment pour les étudiants, mais aussi pour les adultes.
Qui sont dans des chambres parfois trop petites et qui ont besoin, effectivement.
Oui, de travailler ou même d'emprunter un livre. Moi, après le sport et ma famille, ma deuxième passion, c'est la lecture. Donc, j'ai de la chance de pouvoir acheter des poches assez régulièrement, de dévorer ou dévorer des bibliothèques entières, mais dans des librairies, de faire vivre les librairies indépendantes. Mais j'adorerais aussi aller à la bibliothèque. L'idée du partage du livre, de l'emprunt, de la restitution du livre, c'est merveilleux.
Vous parlez de la culture, Gaspard Ganzer. Dans la culture, il y a aussi la presse. C'est de plus en plus difficile d'acheter un journal à Paris. La disparition des kiosques.
Ah, les kiosques disparaissent et avec eux une certaine idée de la presse, le journal qu'on achète, que l'on consulte.
Alors, il y avait notamment ce kiosquier près de Barbès.
Bien sûr, Samir Lepchner qui est un ami, hein, qui a dû fermer boutique, mais on en voit plein d'autres qui ferment. Donc c'est une disparition d'une certaine idée de la presse. Certaines idées aussi de la proximité, parce que le kiosquier est toujours une figure dans son quartier. C'est bien plus qu'un vendeur de journaux, c'est aussi quelqu'un qui apporte du sourire, de la discussion, de la joie. Et ça, c'est vraiment formidable. Et la troisième chose, c'est aussi les éléments du patrimoine urbain, nos kiosques. Il faut faire attention à ce patrimoine parisien. Là, en ce moment, il y a une transformation des kiosques parisiens qui sont refaits. Je suis pas fan, même s'ils sont plus confortables, des nouveaux. Mais il faut qu'on fasse attention à ce mobilier urbain. Je lisais là, il y a quelques jours que les collènes Maurice qui permettent d'informer sur les spectacles à Paris sont en train d'être remplacés. Ça me fend le cœur, quoi.
C'est ce qui fait un peu le charme de Paris.
Bah oui, le charme de Paris. Comme moi, je suis pas un conservateur, mais...
Comme les bouquinistes sur les quais.
J'ai quelques repères dans cette ville. Les grilles d'arbres, la Tour Eiffel, le Louvre, les kiosquiers, les colonnes Maurice, les bouquinistes et plein d'autres choses. C'est pas un Paris de carte postale, ça fait partie de l'identité de cette ville. J'aime bien l'extrême modernité de la ville quand elle s'exprime dans le front de Seine, par exemple, où j'ai grandi dans le 15e. Mais j'aime bien aussi son caractère parfois presque vieillot haussmannien.
Alors, il y a un sujet d'inquiétude actuellement, Gaspard Ganzer, en cette rentrée scolaire. De nombreux élèves handicapés n'ont pas pu rejoindre leur classe, faute d'AVS. Mmh. Nous avons connaissance à Radio-Orient d'exemples précis d'enfants autistes qui sont forcés de rester chez eux pour cette raison. Vous êtes sensibilisé à cette question. Vous, maire de Paris, vous pouvez bouger l'éducation nationale sur cette question ?
Alors c'est d'abord la compétence de l'éducation nationale, mais le maire de Paris ne doit pas s'en désintéresser. Parce que l'égalité de tous les enfants devant l'éducation est fondamentale. Une ville qui n'accueillerait pas tous les siens, pas tous ses enfants, serait une ville profondément inégalitaire et injuste. Et aujourd'hui déjà, tout est plus difficile pour les enfants qui sont en situation de handicap, qui ont une différence, qui est souvent une richesse d'ailleurs, mais qui n'est pas suffisamment prise en compte. Donc les enfants souffrent, et leurs parents souffrent aussi. Alors certains peuvent investir, les inscrire parfois dans le privé où il y a un accompagnement plus fort. Mais c'est pas normal que la ville de Paris ne puisse pas en faire davantage. Donc moi, si je deviens maire de Paris, je bousculerai l'État pour que les moyens soient mis. Et je pense qu'il faudra que les Parisiens mettent la main à la poche pour aider les enfants et les parents qui ne peuvent pas avoir accès à des services renforcés.
Le fait d'avoir servi l'État, là, vous nous dites que c'est un plus pour gérer Paris ?
Moi, j'ai eu la chance de commencer ma carrière au ministère des Affaires sociales. J'en parle peu, parce qu'on se retient souvent mon passage au Quai d'Orsay, au l'Élysée, ou la mairie de Paris, mais l'endroit où j'ai quasiment passé le plus de temps avec la mairie de Paris, c'est le ministère des Affaires sociales. C'est un très beau ministère. C'est un ministère qui s'occupe des relations du travail, de l'action sociale, de l'accueil des plus fragiles. J'y ai passé vraiment les plus belles de ma vie professionnelle avec celle de Paris, et notamment quand on a mis en œuvre une loi voulue par Jacques Chirac sur justement l'égalité des chances pour les personnes handicapées. L'État peut beaucoup faire, et je connais dans le détail cette réglementation, et tout ce que je pourrais faire pour apporter des droits nouveaux, je le ferai avec grand plaisir en tant que maire de Paris.
L'invité de Pluriel, les Gaspard Ganzer, candidat à la mairie de Paris, vous venez de publier « Nous autres Parisiens » aux éditions Fayard. On se retrouve dans quelques instants.
Pluriel, animé par Loïc Barrière.
Retour sur le plateau de Pluriel. Nous sommes toujours en compagnie de Gaspard Ganzer, candidat à la mairie de Paris. Vous venez de publier « Nous autres Parisiens » aux éditions Fayard. Alors, il y a un sujet qui concerne aussi les Parisiens, c'est la sécurité. Visiblement, quand on vous lit, vous n'avez pas de tabou sur la question. C'est un des sujets de préoccupation des Parisiens aujourd'hui. Vous, maire de Paris, vous réussirez ce défi de faire de la capitale une ville plus sûre qu'aujourd'hui? Il y a des capitales européennes où on n'a pas ces problèmes-là.
C'est le moins qu'on puisse dire qu'il y a un problème de sécurité à Paris. Dans le nord-est de Paris, dans le 18e arrondissement, en venant ici en scooter, je suis passé place de la Chapelle, puis porte de la Chapelle, qui sont dans les endroits gangrénés par le trafic de drogue. C'est aussi le cas dans d'autres quartiers dont on parle moins, le sud du 14e ou du 15e. Moi, j'ai grandi dans le sud du 15e, non loin de Ballard, c'est devenu une plate tournante du trafic de drogue. Je discutais avec un habitant ce matin qui me racontait l'horreur pour les voisins et les habitants, une zone de non-droit qui est en train de se développer dans le sud de l'arrondissement. Il y a des rixes entre bandes, les cambriolages ont explosé. Je suis vraiment désolé de le dire de cette manière-là, mais c'est une réalité qu'il nous faut regarder en face. Et il faut d'abord le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. La maire de Paris, l'État n'aime pas qu'on parle de ce sujet, mais moi j'en parle de ce sujet parce qu'il est essentiel et il frappe d'abord les quartiers populaires. Donc notre devoir dans cette campagne, c'est de mettre sur le dessus de la pile en ce qui concerne le débat public. La deuxième chose, c'est que le maire de Paris doit s'engager personnellement sur la question de la sécurité. C'est trop facile de renvoyer la balle en permanence à l'État. Oui, l'État a une responsabilité en matière de sécurité, mais le maire de Paris a une responsabilité aussi. D'ailleurs, la maire de Paris a demandé à récupérer des compétences en matière de sécurité et de contrôle de l'espace public. Elle les a obtenues. Elle est aujourd'hui pour une police municipale, mais cela vient bien tard. Il aurait fallu la mettre en place depuis 2014. Mais inutile de pleurer sur le lait renversé. Que faut-il faire? La première chose, c'est que le maire de Paris doit être le premier garant de la sécurité. Moi, j'ai un modèle en la matière, c'est ce qu'a fait Giuliani à New York. Giuliani, il a récupéré une ville qui était gangrénée par le banditisme et l'insécurité, et il a fait de la lutte contre la sécurité le premier facteur de sa légitimité en matière de...
Avec une tolérance zéro pour toutes les infractions, pas seulement les cambriolages.
Mais il faut que ça soit tout, oui, bien sûr, le trafic de drogue, les rixes, le harcèlement dont les femmes sont victimes dans la rue. Il faut assumer cela. C'est pas parce que je viens de la gauche que je ne pense pas que la sécurité est une question importante. Je pense que c'est un des premiers des droits de l'homme.
Si je vous entends bien, on n'a pas parlé d'écologie, mais on parlera de cette question avec votre colistière Isabelle Saporta dans une autre émission. Mais il y a le pilier écologiste dans votre programme et en même temps la sécurité. Est-ce que c'est ce qui vous distingue, par exemple, de votre concurrent Europe Écologie Les Verts, qui ne parle pas beaucoup de sécurité?
Chacun fait comme il veut, mais je pense qu'on n'est pas crédible pour parler d'environnement quand on n'a pas d'abord réussi à restaurer l'ordre dans l'espace public, qui est l'endroit qui nous appartient à tous. Donc la sécurité doit être une priorité. Donc il faut le dire, il faut s'assumer comme responsable de ces sujets, puis après il faut s'en donner les moyens. Créer une police municipale qui joue le rôle de proximité, hein, de contact direct avec les habitants, avec les commerçants, avec la jeunesse, qui soit très fortement territorialisée, connue des habitants, connue du voisin, de la voisine, permanente dans l'espace public.
Une police de proximité municipale.
Bien sûr, qui a été créée, qui existait à Paris au 19e et au 20e siècle, qui était là. On voyait ces gens dans la rue, les hirondelles, à un moment on les appelait, il y en a eu d'autres, les brigades du Tigre et plein d'autres. Ils étaient présents dans l'espace public. Aujourd'hui, on a une police, je suis désolé de la technicité de ce débat, qui est police de projection. C'est Nicolas Sarkozy qui a voulu ça. C'est-à-dire qu'on met les policiers dans les commissariats, policiers nationaux, et ils se projettent sur le terrain. Moi, je pense qu'il faut des policiers en permanence dans l'espace public, prêts à intervenir à chaque instant et à rassurer. Évidemment, ils doivent être armés. Pourquoi? Parce que les policiers sont des cibles. On le voit, on l'a vu dans les manifestations des derniers mois. Mais moi, je l'ai vu aussi en 2015. Vous savez qu'en janvier 2015, on n'en parle pas assez, mais le 8 janvier 2015, le 7 janvier 2015, un policier s'est fait tuer dans la rue. C'était Ahmed Merabé, c'est un policier national qui s'est fait tuer au boulevard Richard Lenoir. Le 8 janvier 2015, une policière municipale de Montrouge, Clarisse Saint-Jean-Philippe, s'est fait tuer. Elle s'est même fait tirer des balles dans le dos par Koulibaly à la sorte devant une école, pas non loin d'une école confessionnelle juive. Voilà la réalité. quand on est un policier et qu'on soit municipal ou national, eh bien on est une cible. Donc on a le droit de se protéger. Et si on veut que c'est en légitime défense, et si on veut que ces policiers puissent intervenir dans des zones difficiles, gangrénées par le trafic de crack, de cocaïne et d'héroïne, il faut qu'ils aient des moyens de se protéger. Alors évidemment, il faut qu'ils soient formés, contrôlés, il faut que cette police soit exemplaire du point de vue de l'éthique, de la responsabilité et du contrôle. Mais oui, il faut qu'elle soit armée.
Alors ça, c'est le volet répressif de votre politique, mais il y a aussi la prévention.
C'est pas que répressif, parce que quand il y a une police de proximité présente en permanence dans l'espace public, qui arrive à nouer des relations de confiance avec les habitants, avec les commerçants, avec la jeunesse, eh bien elle peut aussi prévenir les troubles à l'ordre public. C'est même sa principale fonction.
Les finances actuelles de Paris permettent de créer...
C'est un effort, bien évidemment, de plusieurs dizaines de millions d'euros. On a les effectifs, mais il va falloir les former très largement, probablement, en créant une école, une académie de police. Mais il faudra aussi les équiper en lien avec la police nationale et les contrôler. Donc tout ça a un coût. Mais c'est un coût légitime et nécessaire, puisque la ville ne sera pas crédible tant qu'elle n'aura pas réussi à rétablir l'ordre dans certains quartiers de Paris.
Gaspard Ganzer, en allant sur votre site internet, j'ai lu un long développement sur la pauvreté. Lutter contre la précarité et la pauvreté, ce sera une de vos missions, même si c'est aussi de la responsabilité de l'État. J'ai vu que vous plaidiez pour un guichet unique, par exemple, pour faciliter l'octroi des aides sociales.
Oui, alors ça fait déjà plaisir que vous ayez pris le temps de lire ces textes, parce que parfois il arrive que certains observateurs ne retournent pas à la source, donc je vous en remercie. Effectivement, on a publié de nombreux textes de mon nombreuses analyses et fait de nouvelles propositions depuis 2 ans que nous sommes lancés, mais notamment sur les questions de solidarité. Pourquoi ? Parce que dans les valeurs de Paris, il y a la sécurité, on en a parlé, la liberté, hein, qui est vraiment la valeur cardinale de Paris, mais il y a aussi la solidarité. Tout comme l'écologie. La solidarité, parce qu'en fait, Paris ne doit pas être une ville dans laquelle il n'y a que des riches d'un côté et des très pauvres de l'autre. Il faut que la ville de Paris garantisse la solidarité entre tous les Parisiens, parce que c'est une ville dont la diversité est une force et une richesse depuis toujours. Or, aujourd'hui, les plus pauvres souffrent. Il y a de plus en plus de SDF, de plus en plus de mineurs à la rue. Et évidemment, c'est d'abord de la responsabilité de l'État, hein, la lutte contre l'exclusion. Mais la ville doit prendre sa part. Elle la prend déjà très largement. Il serait faux de dire qu'elle ne le fait pas. En tant que département, elle a une responsabilité en matière d'action sociale. Mais on pourra aller beaucoup plus loin. On ne pourra pas tout faire à la fois, mais je pense qu'il y a plusieurs priorités. La première, c'est quand même d'en venir en aide à l'enfance en danger. Hein. Il y a plus de 500 enfants des rues. J'ai dit que la première chose qu'on ferait en arrivant à la mairie de Paris, c'est sortir ces enfants des rues. La deuxième chose, c'est qu'il y a un sujet particulier sur les SDF. Un très grand nombre d'entre eux sont en réalité atteints de maladies psychiatriques, sont des schizophrènes ou des gens atteints de psychose. Et il faut qu'avec la PHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, on trouve des moyens pour les sortir de là. La troisième chose, c'est qu'il y a toujours dans la rue beaucoup de gens qui sont victimes d'addiction qui sont des toxicomanes et au-delà de l'aspect répressif dont on a parlé tout à l'heure, il va falloir les prendre en compte. Et puis après, j'ai un sujet qui me tient à cœur, on a déjà parlé du handicap tout à l'heure, c'est les personnes âgées, hein. Il y a quand même un tiers de la population parisienne qui a plus de 65 ans, on n'en parle jamais des personnes âgées qui souffrent d'isolement, de solitude et d'exclusion, et il faudra les prendre en charge.
Et qui souhaitent vieillir à domicile.
Bien sûr.
Rester chez elles le plus longtemps possible.
Elles le souhaitent et je le souhaite. Moi, mais tous mes grands, sur 3 grands-parents sur 4 sont morts à Paris. Du côté de ma mère, mon grand-père et ma grand-mère sont morts à 90 et 96 ans. Ils ont eu la chance de pouvoir quasiment jusqu'à la fin de leur vie rester chez eux et c'était formidable. Ma grand-mère paternelle aussi est morte à un peu plus de 80 ans. Elle a pu rester chez eux quasiment jusqu'au bout, même si elle était atteinte d'un cancer. Ça change tout. Et je les ai vus décliner à partir du moment où ils ont été placés dans des maisons.
Oui, on sait que l'espérance de vie en EHPAD, c'est de 1 ou 2 ans.
Malgré la bienveillance hein, des personnels qui les prenaient en charge, on essayait d'aller les voir le plus souvent possible, mais la vie était devenue beaucoup plus difficile. Ils étaient beaucoup plus repliés sur eux-mêmes et c'était très triste d'ailleurs, malgré tous les efforts faits par le personnel soignant et les gens qui étaient dans ces EHPAD. Donc oui, il faut maintenir le plus longtemps possible c'est nos aînés chez eux.
J'ai vu qu'il y avait donc une forte connotation sociale dans votre programme. Est-ce que Paris peut montrer l'exemple à l'ensemble de la France sur cette question sociale? Il y a un gouvernement en place, mais les villes parfois peuvent être exemplaires. On a vu des maires prendre des mesures qui vont à l'encontre de la majorité actuelle ou de la majorité précédente. Je pense au maire de Grande-Synthe qui a pris des mesures en faveur des migrants, le maire de Grenoble, écologiste. Vous avez aussi cela en perspective, c'est-à-dire que on réduit certaines inégalités. Paris peut être exemplaire.
Paris, aujourd'hui, cherche avant tout à être exemplaire en matière d'écologie. C'est une bonne chose. Mais je crois que Paris doit d'abord être exemplaire en matière de solidarité. J'aimerais que cette ville devienne un modèle en France, en Europe, dans le monde peut-être, en matière de solidarité. Paris, c'est une ville populaire. C'est une ville populaire dans son histoire. Elle a perdu son caractère populaire. Elle est en train de le perdre de plus en plus. Moi, je veux me battre pour le peuple de Paris. J'allais dire ce qu'on appelait au 19e siècle le petit peuple de Paris, ce peuple d'ouvriers, de commerçants, d'artisans, d'employés. J'ai pas envie que ça devienne une ville entièrement bourgeoise, bobo ou autre. Il faut de tout dans cette ville. Et donc, il faut qu'on réinvente aussi la solidarité. Il y a quelques années, dans les années 80, quand Chirac était maire de Paris, excellent maire de Paris, il avait inventé avec d'autres, Xavier Emmanuelli, Dominique Versigny, le SAMU social. Et là, ça a fait école en Europe et en France. Il faut qu'on réinvente le SAMU social du 21e siècle parce que Paris doit montrer la voie en matière de solidarité.
Et vous souhaitez étendre à toute la ville de Paris l'initiative baptisée Territoire zéro chômeur de longue durée. C'est une initiative que vous pouvez nous expliquer?
Alors, c'est Laurent Grandguillaume qui a eu cette idée,
ancien député socialiste,
qui aujourd'hui a quitté la vie politique d'ailleurs et qui est devenu un entrepreneur. Derrière la formule zéro chômeur, il y a l'idée vraiment de l'exigence maximale en matière d'efficacité du service public de l'emploi. Donc, ça passe par Pôle emploi, ça passe par les entreprises, ça passe par des aides aux entreprises, mais surtout une plus grande transparence et fluidité dans les offres sur le marché du travail. Il se trouve qu'à Paris, il y a du chômage, toujours, mais inférieur à la moyenne nationale. En réalité, il y a beaucoup de demandes d'emploi. C'est-à-dire que, notamment dans certains secteurs comme l'hôtellerie, cafeterie, restauration, on cherche des gens en permanence. On cherche à embaucher, on a du mal à embaucher. Même la ville cherche à embaucher en permanence des fonctionnaires pour ses crèches, pour ses agents publics. Sauf qu'on a un problème de transparence et de fluidité du marché de l'emploi. Donc c'est pour ça que cet objectif qui peut sembler comme ça un peu marketing de zéro chômeur, est tout à fait possible.
Alors Gaspard Ganzer, quel bilan tirez-vous de la politique de la maire sortante et de son adjoint Yann Brossa en matière de logement? Que proposez-vous pour lutter contre la spéculation immobilière, pour permettre à la classe moyenne de continuer à vivre à Paris? Ce qui est difficile aujourd'hui.
Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. S'il y a un domaine dans lequel la ville de Paris a vraiment échoué, c'est en matière de logement. Un chiffre. Depuis 5 ans, tous les ans, 12 000 habitants quittent la ville. Pourquoi est-ce qu'ils quittent cette ville? C'est pas par plaisir, c'est parce qu'ils sont expulsés de fait de cette ville. Ils ne peuvent plus s'y loger. Le prix du mètre carré à l'achat comme à la location a littéralement explosé. Pour acheter un appartement aujourd'hui, il faut compter plus de 10 000 euros du mètre carré. Dans certains quartiers, ça monte à 15 000 euros, 20 000 euros. Et pour la location, c'est 30 euros du mètre carré. Il y a 20 ans, à Paris, on était aux alentours de, accrochez-vous bien, 2 500 euros du mètre carré. Multiplié par 4 en 20 ans. C'est absolument invraisemblable. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'offre s'est raréfiée et la demande a continué d'augmenter. Donc, pour résoudre les difficultés, il faut réaugmenter l'offre et fluidifier la demande. Hein. C'est aussi simple que ça.
Donc, pour augmenter... On ne peut pas pousser les murs dans Paris.
Non, mais il y a des réserves. Plusieurs. La première, il y a des ZAC, des zones d'aménagement concertées, comme celle non loin d'ici, à Paris-Batignolles, où on a pu faire des belles choses. On a créé un parc, on a dépassé un peu la hauteur ce matin. Mais ça, c'est le modèle qu'on doit utiliser dans les autres ZAC qui existent. C'est de Bercy-Charenton dans le 12e, de Masséna dans le 13e ou de Paris-Nord-Est, sur les rails de la gare du Nord et de la gare de l'Est. Donc on peut créer des logements. Moi, je pense qu'il y a un objectif à l'échelle de la prochaine mandature de 30 000 logements nouveaux créés, neufs. avec un tiers de logements sociaux, un tiers de logements intermédiaires et un tiers de logements en accession à la propriété. Ça semble pas grand-chose, mais c'est beaucoup, 30 000 logements. On peut loger entre 60 000 et 100 000 personnes supplémentaires de cette manière-là. La deuxième chose, c'est le premier type de réserve. Deuxième type de réserve, le périphérique. Troisième type de réserve, il y a certains endroits où on peut combler des dents creuses pour surélever un peu la hauteur haussmannienne. Donc, un, créer des logements. Deux, il faut concevoir la politique du logement à l'échelle du Grand Paris. Ça ne sert à rien de se faire la concurrence entre Paris, Levallois, Montreuil, Montrouge. Il faut qu'on concerte nos politiques d'urbanisme et de logement.
Ça n'est pas le cas actuellement.
Pas du tout. Il n'y a aucune concertation sur les plans locaux d'urbanisme et sur l'octroi des permis de construire. Chacun fait ce qu'il veut.
Qu'est-ce qui va changer si vous êtes élu?
Moi, je commencerai par aller voir les communes voisines, discuter avec chacun d'entre eux. D'ailleurs, j'ai commencé à le faire dans le cadre de la campagne. Et je leur dirai que je souhaite que dans le cadre de la métropole du Grand Paris, on décide ensemble des grandes opérations d'urbanisme, qu'elles soient intramuros ou extramuros, y compris la politique du logement. Et évidemment, je dirai que Paris donnera l'exemple en premier. Donc, un, construire le logement. Deux, imaginer cette politique du logement à l'échelle du Grand Paris. Trois, lutter contre l'insalubrité du logement, parce qu'il y a de nouveau des logements insalubres dans certains quartiers, et il faut même, au-delà de cette insalubrité, travailler à la rénovation thermique des bâtiments, d'une part, et d'autre part, refaire un parc de logement social qui est quand même totalement délabré dans certains coins. Je suis allé récemment porte devant dans un ensemble d'HLM, comme on dit, franchement, c'est en très mauvais état. Quand on voit les habitants qui vivent là-dedans, ils se plaignent pas, mais ils auraient de quoi se plaindre. Alors, du côté de la demande, je pense qu'il y a plusieurs publics sur lesquels on doit travailler, mais moi, il y a un public auquel je suis très sensible, c'est celui des étudiants. Il y a 300 000 étudiants à Paris, 200 000 qui étudient à Paris, 200 000 qui vivent à Paris, même pas 30 000 qui sont dans des logements étudiants, ça va pas du tout. Donc, il faut créer des logements étudiants au cours du prochain mandat.
Et j'ai vu que vous souhaitiez un petit peu étendre les catégories de personnes qui peuvent avoir droit au logement social, et vous pensez aux familles monoparentales qui ont du mal à se loger dans le parc social parce qu'on privilégie plutôt les familles nombreuses.
Oui, on privilégie les familles nombreuses et puis les familles les plus précaires, ce qui est une bonne chose. Mais moi, je propose de favoriser trois publics, les étudiants, je viens d'en parler, les familles monoparentales, notamment les femmes qui ont assises des charges de famille, et trois, les gens qui travaillent pour les Parisiens, c'est-à-dire les infirmières, les puéricultrices, les professeurs des écoles, les sages-femmes, etc. Les gens qui soignent et aident les Parisiens devraient prioritairement avoir accès au logement social. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas qu'ils aient des heures et des heures de transport en commun à faire avant d'exister le service public.
Gaspard Ganzer, au moment où se déroule le Grenelle des violences conjugales, vous, maire de Paris, est-ce que vous réserverez des logements temporaires pour les femmes forcées de quitter provisoirement leur domicile en cas de violence ? Et plus généralement, quelle sera votre contribution à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes ?
Deux sujets liés, mais quand même assez différents. Le premier, c'est le sujet de lutte contre les violences. Alors, il y a des violences dans l'espace public, on en a un peu parlé tout à l'heure. Donc là, j'espère que la police municipale pourra aider à protéger, prévenir davantage les femmes.
Notamment le harcèlement de rue.
Pour le harcèlement de rue. Après, il y a la réponse pénale pour les violences contre les violences conjugales. Donc ça, il faut que les juges, ça c'est leur responsabilité, soient extrêmement durs et virulents. Il faut aussi aider les femmes dans leur démarche de signalement. Aujourd'hui, elles ne savent pas forcément à qui s'adresser quand elles sont harcelées, agressées ou menacées par quelqu'un. Il y a une initiative que j'aime beaucoup, qu'on devrait développer à Paris. Il se trouve qu'une de mes cousines, Rada Atem Ganzer, a ouvert ce qu'on appelle la Maison des Femmes à Saint-Denis. J'y suis allé récemment. C'est un endroit formidable dans lequel une femme qui a été victime de violence ou d'agression peut à la fois rencontrer un médecin, un psychologue, une aide sociale, mais aussi un policier si c'est nécessaire pour déposer une plainte. Il n'y a pas d'endroit comme ça à Paris. Il faudrait les développer davantage. Tout comme, vous avez raison, il faudrait développer les endroits où on peut mettre à l'abri les femmes, au-delà des chambres d'hôtel, peut-être trouver des foyers dans lesquels elle puisse se retrouver. Donc ça, c'est une moyen. Mais je pense que si on doit retenir une proposition, c'est celle de créer des maisons des femmes, comme il en existe à Saint-Denis, dans tous les arrondissements de Paris. Et sur la question de l'égalité, donc l'égalité, c'est d'abord l'égalité professionnelle. Je pense que là, la ville de Paris doit donner l'exemple. Beaucoup de choses ont été faites. Alors évidemment, l'exécutif, si je deviens maire de Paris, sera paritaire. On co-dirigera la ville avec la première adjointe, j'espère que ça sera Isabelle Saporta. Il faudra qu'il y ait autant de directrices que de directeurs, si ce n'est plus d'ailleurs, autant de collaboratrices que de collaborateurs, si ce n'est plus au sein du cabinet du maire, et qu'on veille dans le déroulement des carrières à ce que les femmes ne soient pas victimes d'un plafond de verre. Alors dans la fonction publique, les différences de rémunération sont moins fortes que dans le secteur privé, parce que tout ça est indicié, donc il y a moins de liberté contractuelle et donc l'égalité est plus forte, mais elle n'est jamais totale non plus dans le déroulement des carrières, donc il faudrait veiller. Et puis après, il y a plein d'autres sujets, ce qu'on peut faire en matière d'éducation en accompagnant l'éducation nationale, ce qu'on peut faire dans l'espace public, ce qu'on peut faire dans les transports. Un milliard de sujets, il nous faudrait plusieurs émissions pour parler rien que de ce sujet-là.
On vous réinvitera probablement avant l'élection du mois de mars. Pour terminer, Gaspard Ganzer, comment va se dérouler votre campagne là dans les mois qui viennent ? Vous êtes candidat déjà depuis plusieurs mois, vous publiez ce livre. J'ai vu que vous faisiez de nombreuses réunions dans Paris. Comment se décline la campagne ?
Écoutez, je suis à fond depuis plusieurs mois et je continue d'accélérer parce que je pense qu'il faut tout donner dans une campagne électorale.
Vous ne vous laissez pas abattre par les mauvais sondages.
Non, parce que la réalité, je sais que je me suis lancé depuis le début dans un combat difficile. Donc je l'aborde avec autant d'humilité que de modestie. Je sais que c'est difficile d'aller convaincre les Parisiens quand on part des zéros. Mais nous, on a bossé énormément depuis 2 ans. On a créé un mouvement citoyen. On est allé à la rencontre des gens. On a mis des sujets sur la table. J'ai écrit ce livre. Et on va continuer inlassablement. Parce qu'on ne le fait pas pour nous. On le fait pour une cause qui est plus grande que nous. On ne le fait pas pour un poste ou pour des responsabilités. On le fait parce qu'on croit qu'il est indispensable qu'une nouvelle génération prenne les clés de l'hôtel de ville et rende ces clés de l'hôtel de ville aux Parisiennes et aux Parisiens. Et donc on se battra jusqu'au bout sans compter notre temps, sans ménager nos efforts, parce qu'on le fait pour le peuple de Paris.
Je vous remercie Gaspard Ganzer. Je rappelle que vous êtes candidat à la mairie de Paris et que vous venez de publier « Nous autres Parisiens » aux éditions Fayard. Bonsoir.
Merci à vous.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.